Bon, bonjour. Alors, africaine et en retard, c'est ma première manière de me présenter. Alors, j'ai des excuses, je n'en ai pas. Je savais que je venais à Aubervilliers, au campus Condorcet que je ne connaissais pas, parce qu'il est neuf, bien sûr. Mais à Aubervilliers, donc je suis à 8h15, j'étais maître Aubervilliers. Puis après, je me suis promenée dans Aubervilliers. Et j'ai fini par être ramassée par un taxi haïtien qui a accepté que je le mette dans l'embouteillage. Je l'en remercie. Et ensuite, après, il a fallu imprimer mon texte, parce que je ne l'ai pas regardé pendant la soirée. Donc voilà, c'est moi. Je vous remercie pour votre écoute. Alors, je voudrais peut-être dire d'abord, alors, mesdames, mesdemoiselles, chers collègues, chers étudiants, chers amis, j'ai accepté de prendre la parole à cette conférence parce que j'ai été invitée et j'en remercie. Et je remercie les personnes qui m'ont invitée. Parce que, au fond, cette invitation, je l'ai reçue comme une marque d'amitié, mais surtout comme un besoin d'échanges, de discussions sur des idées, des discussions que j'ai souvent faites avec plusieurs personnes d'entre vous, j'en vois quelques-unes dans la salle, au cours de ces années, soit à l'Université Charles de Gaulle de Dakar, où j'ai exercé, où j'ai étudié et passé une bonne partie de ma carrière, et à l'Université Paris-Diderot, où je l'ai achevé. Et bien sûr, sur plusieurs autres lieux de discussion et de réflexion. Mais je savais bien que cette entreprise était difficile, parce que les questions soumises, contenues dans la note d'introduction que j'ai reçue et que j'ai lue avec beaucoup d'intérêt, sont présentes des questions tout à fait complexes. Et l'approche à ces questions est variée, bien sûr, peuvent être consensuelles ou contradictoires selon les contextes, selon le point où l'on est situé pour prendre quelques-unes de vos expressions. Alors, bien sûr, il y a plusieurs difficultés dont je vais parler et qui font partie de ce dialogue que nous allons avoir. C'est avec qui est-ce que je suis en dialogue? Est-ce que je suis en dialogue avec des femmes noires qui vivent, alors j'ai mis noires entre guillemets hein, dans mon texte, qui vivent ou sont nées en Europe, qui sont africaines, afrodescendantes, originaires des Outre-mer cartographiés par une France coloniale et postcoloniale? C'est une première question. Est-ce que je suis en partage avec des femmes blanches, libérées comme telles dans les controverses actuelles, critiquées pour avoir tracé des chemins de libération des femmes avec des prétentions pétries d'arrogance, pour reprendre une expression de Fatima Mernissi, déjà dans les années 1970-1980. Plusieurs personnes dans cette salle n'étaient pas encore nées à l'époque, mais on a déjà le débat. Et si ces femmes, les femmes blanches, veulent nous aider à nous décoloniser, alors nous, les toujours libellés, colonisés ou anciennes colonisées, nous avons la tâche de les aider à se décolonialiser et à décolonialiser la société française. Et ça, c'est sans doute un point de discussion qui sera important. Ou alors, est-ce que je suis seulement ou en priorité en conversation avec cette majorité d'Africaines vivant sur le continent, dont les histoires et les revendications sont à la fois si particulières et si globales, dont les paroles longtemps occultées veulent s'exprimer en leurs termes? Le féminisme et le genre sont devenus des termes familiers, bien que toujours aussi contestés, réinterprétés, réanalysés. Mais ils ont fini par être adoptés par les associations féminines, par la recherche académique et même par les États africains qui les ont institutionnalisés. En termes de gender, c'est ce qu'utilisent un journal sur la culture africaine, et les études sur les femmes, ou bien Feminist Africa, ou Afrique Féministe, une revue en ligne qui est abritée par le African Gender Institute à Cape Town. Il a été dirigé pendant de longues années par une Nigériane. Et puis, il y a également le Forum Féministe Africain, African Feminist Forum, où, dont je suis membre, et où nous nous déclarons féministes sans si ni mais. C'est-à-dire, je suis féministe, si. Je suis féministe, mais il pleut dehors. Je suis tenue de parler à cette majorité africaine, et je ne dis pas communauté, pour ne pas utiliser vos langages ici. Mais je suis tenue de parler à cette majorité d'Africaines de ce vaste continent auquel j'appartiens. J'y vis. Ces problèmes, leurs problèmes, et Dieu sait qu'il y en a, sont les miens, ce sont ceux qui m'interpellent et ceux qui m'affectent. C'est à partir de ces problèmes-là et cette manière de voir le féminisme, cette manière de l'interpréter, cette manière de le créer, j'ai arrêté de dire recréer, maintenant je crée. C'est à partir de ces points de vue qui sont divers que j'appréhende la question du féminisme. Alors ces audiences dont ma présentation peut paraphraser la caricature ont des similitudes et des différences. Nos chemins, ils se sont croisés, ils se sont rencontrés, ils se sont heurtés, ils se sont confrontés à plusieurs moments de l'histoire. Mais nous partageons, et cela, je veux le retenir, le fait de nous revendiquer femmes, d'être femmes dans l'histoire, d'être femmes dans le monde. Et cela devrait l'être au même titre les unes et les autres. Une autre difficulté, le contexte post-impérial français. J'avoue que je me sentais enfermée dans ce titre où il m'était demandé de parler du féminisme noir dans un contexte, entre parenthèses, post-impérial français. Mais le fait que la phrase soit ponctuée d'un point d'interrogation m'a permis de le questionner. La caractérisation de ce contexte a encore du sens, certainement, dans nombre de situations contemporaines, comme en témoigne dans notre conceptuel. En tant qu'Africaine, je suis confrontée à des pluralités de situations diverses, hétérogènes, que l'on ne peut réduire au contexte post-impérial français. Il y a eu tant de changements, d'évolutions, de ruptures qui imposent d'aller au-delà. Alors, on ne me racontera pas la colonie. Je suis née dans le contexte impérial français, à d'ailleurs une époque critique de son histoire. Sa présence impériale sur le continent, en Afrique de l'Ouest et au Sénégal, lui a permis de lever des soldats noirs identifiés, grossière erreur, de tirailleurs sénégalais, pour reconquérir part de sa liberté. L'indépendance, je l'ai vécue comme émotion, comme étape marquante de mon histoire. L'indépendance a certes connu l'épisode malheureux du référendum gaullien de 1958. J'étais sur la place Protée, au cœur de la ville de Dakar, lorsque l'allocution du général de Gaulle nous forçait littéralement à répondre oui à son projet de rejoindre la communauté française avec la constitution de 1958 qui a institué la Ve République. Le général de Gaulle a été follement chahuté par la foule des porteurs de pancartes, comme on les appelait. Vous savez, il y avait des pancartes, indépendance. Môme serait où, comme on dit. Il a été follement chahuté, même si après, au moment des résultats, 97,55% de Sénégalais ont supposément répondu oui, alors que 95,22% ont répondu non dans la Guinée voisine. Et là, la France impériale a agi. L'année 1960, celle de l'indépendance, a été une année symbole. Je l'ai vécue comme une rupture, comme une étape de liberté, et pas seulement comme une année de transition vers le post-colonial et le néocolonial dans lequel nos réflexions, je l'avoue, sont engluées. J'avoue être de plus en plus gênée aux encoignures, hein. Excusez-moi l'expression, lorsque je suis réduite à présenter un Sénégal comme espace postcolonial pour expliquer tout ce qui lui est arrivé en 50 ans d'indépendance. Je ne peux pas m'empêcher de dire que la France impériale, on l'a vu s'effriter progressivement, malgré les complots avérés de la France-Afrique, ses grands intérêts dans des secteurs vitaux défendus, la pérennité de sa langue comme appareil administratif et politique, la pérennité de son système éducatif comme modèle référent, de son influence culturelle, et RFI en est un gage. Ces armées stationnées sur le continent ont longtemps soutenu des régimes amis liés à ces intérêts multiples. Aujourd'hui, ces armées sont enlisées, notamment dans le Grand Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, en lutte contre les poussées djihadistes, des insurrections transfrontières, des rébellions contre les mauvaises gouvernances locales, etc. La situation est malheureuse et complexe. On a vu la France post-impériale plus que bousculée sur la question du franc CFA, remise en cause depuis des décennies. Cette France post-impériale s'inquiète de la menace de l'écho. Alors, écho, c'est le nom de la nouvelle monnaie qui devrait être émise si Macron, Ouattara et le reste à CEDEAO s'entendent, ou bien ne s'entendent pas. Cet écho dépend de la volonté d'États francophones, anglophones et lusophones réunis dans l'espace CEDEAO pour émettre cette nouvelle monnaie. Alors, bien sûr, la France impériale, il reste Total, Areva, Orange, Auchan, Casino, Carrefour, Bolloré dans nos ports et dans le TER, c'est le réseau trans. Alors, c'est le train régional express, l'espèce de RER, qui sera bien d'ailleurs quand il sera prêt, hein, qui ralliera la ville de Dakar à l'aéroport, Eiffage pour l'autoroute à péage. Tous ces compagnies, au fond, les pouvoirs africains, et pas seulement le Sénégal, les mettent en compétition avec des compagnies chinoises, américaines, turques, indiennes, japonaises et de plus en plus africaines. Je pense à Dangote du Nigeria. La France n'a plus les moyens aujourd'hui d'être impériale avec son ancien précaré, malgré des convivances encore vivaces en fonction d'intérêts stratégiques. C'est vrai que nous soutenons la place de la France dans le monde avec la francophonie, avec nos votes aux Nations Unies, avec le maintien surtout des zones d'influence avec la langue française. La France rayonne, mais en termes d'empire, elle n'a plus que ses outre-mer. Qui lui importe, mais il lui importe de garder son rôle important à jouer, à condition de redéfinir ses politiques et stratégies qui doivent aussi concerner les outre-mer. Alors, continuer à mettre la seule postcolonialité française en cause comme moteur de notre histoire, c'est aussi nier la responsabilité, voire la complicité des pouvoirs africains eux-mêmes, leurs difficultés de gouvernance, les diverses crises auxquelles ces pays sont confrontés sur des décennies. Et il y a également, et c'est extrêmement important, bien que nous n'ayons pas le temps d'en discuter de manière plus approfondie, les effets pervers de la mondialisation qui ne date pas seulement des années 2000. La construction de tous ces événements et de tous ces systèmes ont été critiques. Alors, si j'ai été aussi longue, c'est parce que vraiment je me sentais enfermée dans ce post-impérial français. Et j'ai voulu casser un peu les barres autour de mes épaules. J'espère que ça ouvrira une partie de la discussion. Mais ce que j'ai retenu de ce premier titre, c'est que les relations sexe-race-classe sont au cœur de nos débats. Comment sont-elles configurées ou reconfigurées, marginalisées, ignorées dans nos contextes vécus et dans nos espaces? Comment sont-elles appréhendées, ces relations, au niveau des recherches académiques, des organisations féminines, des milieux politiques ici et ailleurs. Le racisme, la racialisation, la racisation, l'infériorisation, les préjugés de discrimination qui s'accompagnent relèvent certainement d'expériences vécues, donc connues, lorsqu'on a vécu le temps de l'esclavage, de la colonisation, de l'apartheid. Moi, j'ai été qualifiée de colonisée, j'ai été ethnique, mais tribale avant d'être ethnique. Je parlais des dialectes quand, dans d'autres régions, ces dialectes occupent des régions grandes comme X fois la France. J'ai été disons coincée entre l'ethnomusique, l'ethnohistoire, l'ethnopsychiatrie. Aller chercher au rayon ethnique des grands magasins la crème qui allait pour ma peau. Décidément, noir n'est pas mon métier. Et je remercie les actrices qui ont, aux démarches de Cannes, ont pu lancer ce message. Bien sûr, on a le musée des arts primitifs qui ne pouvait pas être abrité au Louvre, qu'on a voulu appeler musée des arts premiers, jusqu'à ce qu'il finisse par porter le nom du quai sur lequel il était bâti. Mais heureusement, Chirac, on a donné son nom à Chirac. Alors, mon problème, c'est que je refuse d'être qualifiée, d'être enfermée, d'avoir mon identité isolée et piégée dans ces concepts primitifs, minorité, diversité, altérité, racisé, racialisé. Ces appellations restent pour moi vraiment problématiques. C'est pour cela qu'au moment où je me suis assise pour écrire mon papier, que j'ai commencé, je me suis dit, mais est-ce que je suis vraiment la meilleure personne à venir parler aux Noirs de France, aux Blanches de France et aux Africains dans le monde, leur dire que je revisais ces concepts qui m'ont pendant longtemps totalement heurté et que je mets en permanence en question. Alors la race est-elle une question ? Parce que quand on parle de féminisme noir, effectivement, on fait allusion à la race. La France est un pays qui ne parle pas de race parce que la race n'existe pas. On peut en être tout à fait d'accord. Hein? Mais en même temps, la race est un problème dans ce pays. Et si j'en crois, Pape Ndiaye, mon collègue sénégalais, disons franco-sénégalais, qui, alors ça devait être en 2011, 2008, je ne sais plus, avait écrit cet ouvrage extrêmement important, dans lequel il disait, mais si on ne discute pas de la race, jamais on ne pourra éliminer la race. Alors, est-ce que la race est une question en France ? Est-ce qu'il y a du racisme en France ? Moi, je vais vous laisser en débattre. Je sais seulement que je suis noire, mais je sais que je deviens noire dès que je quitte le contexte africain. Dès que je quitte l'Afrique subsaharienne, je deviens noire. Et je le deviens en toute conscience, en essayant de le vivre confortablement, de le vivre normalement. Sinon, j'en fais un médaillon, j'en fais un drapeau, en fonction des contextes. Mais je comprends tout à fait Françoise Vergès, qui, dans le ventre des femmes, dont je recommande la lecture, hein, écrit de manière... Et je résume ce qu'elle écrit, c'est de dire que les questions sont là, les questions sont discutées, mais elles sont mal définies parce qu'il n'y a pas de lien entre la race, la marginalisation, la globalisation, la colonisation, le post-colonial, et qu'en fait, les féministes françaises font comme si colorblind. Il n'y avait pas de couleur, il n'y a pas de problème, comme si les situations étaient vécues de la même manière par tout le monde, c'est-à-dire par toutes les femmes blanches. C'est la question que je vous pose. J'espère que vous arriverez à la résoudre. Ça me permet d'en arriver à, maintenant, la question féminisme noir, féminisme africain ou féminisme en Afrique. Lorsque Françoise Dorlin publiait Black Feminism, une anthologie, qu'il faut également lire, parce qu'on apprend énormément, et avec des, elle fait des commentaires sur des auteurs eux, alors autrice, hein, je ne sais pas encore dire, mais des auteurs qui ont réellement débuté le terrain, elle disait, mais existe-t-il un féminisme noir? Ça m'avait questionné, disons. Et puis, quelques temps plus tard, on m'a demandé de faire une lecture critique, de faire un rapport, disons, sur son ouvrage. On m'a demandé d'écrire une page, deux au maximum. J'en ai écrit 13, parce que sa question m'avait interpellée. Et j'avais envie de lui dire, ça c'est magnifique, parce qu'elle a vraiment, elle m'a vraiment fait découvrir des auteurs dont je connaissais seulement quelques-unes, lisant en anglais, ce qui n'était pas évident pour la francophone que je suis. Mais elle avait éclairé les débats, et je la remercie également pour toutes ces autres réflexions sur la race. Elle avait une manière scientifique et féministe qui fait que la question de la race devenait une question non seulement intelligible, mais intéressante à lire, parce qu'elle avait des arguments, et j'ai énormément appris. Mais en même temps, j'avais envie de lui dire que ces questions, alors pas autour forcément de la race, mais autour de l'Afrique et des Africaines, étaient des questions qui avaient commencé bien avant les indépendances. Alors, je sais qu'il y a un atelier qui est « Est-ce qu'on peut être féministe avec ou sans féminisme ?» Je dirais, est-ce que les luttes des femmes sont résumées au féminisme? Est-ce qu'on ne lutte pas pour les droits des femmes si on n'est pas féministe? C'est un questionnement également qu'on se pose. Mais je veux dire simplement qu'il y a eu tellement d'idées débattues. Par des femmes plus âgées que moi, que j'appelle mes mères et mes tantes, par ma génération, par celle de mes enfants et bientôt celle de mes petits-enfants, qu'au fond, il y a tous ces débats qui sont les débats qui sont en même temps liés aux débats sur l'histoire africaine, sur les langues, que nous avons engagés au nom de la décolonisation des sciences sociales, ont mis à jour des enjeux de taille. Qu'on n'a pas attendu le féminisme noir pour exprimer quelles étaient nos inquiétudes, nos revendications et nos aspirations. Nous avons tellement contribué à des courants d'idées qui me semble légitime, et je le revendique, de qualifier nos luttes de féministes, tout en sachant bien faire la différence de celles qui sont féministes et de celles qui ne le sont pas, et tout en sachant que ma seule liberté, c'est de définir quel est le point de vue féministe d'où moi je pars. Alors, féminisme noir, féminisme africain, féminisme en Afrique, les Africaines avaient en 1976, participer à un séminaire à Wellesley College sur Women and National Development, qui était un très grand colloque organisé par les féministes américaines, donc majoritairement blanches, qui avaient littéralement, sur la base de leur terrain de recherche, vous savez, j'ai mon terrain de recherche, et mon terrain de recherche, c'est le Sénégal, c'est Madagascar, c'est la communauté Igbo, c'est faisant de moi un sujet, un objet de recherche. Ces Africaines, devant les discours tenus, avaient littéralement vraiment claqué la porte. Hein, et quand les Africaines claquent la porte, vraiment, c'est la claque. Elles ont proclamé, l'année d'après, en créant l'Association des femmes africaines pour la recherche et le développement, la nécessité de décoloniser les sciences sociales en Afrique. Et ça avait été un point très important qui entrait au fond dans le cadre de la décennie mondiale consacrée aux femmes par les Nations Unies, qui de 1967 à 1975, jusqu'à Beijing en 1995, ont contribué à sensibiliser l'opinion publique internationale sur les questionnements féministes. Et ça, c'est arrivé en Afrique également. Mais à ce moment-là, le fait que les féministes africaines aient mis en question le féminisme tel qu'il était défini à l'occidental, pour recréer d'abord un mouvement de pensée. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que d'abord, c'est le fait que peu d'Africaines, dans ces années-là, aient refusé d'accepter l'épithète de féministe. Parce que si on est féministe, donc on est occidentalisé. Et si on est occidentalisé, donc on est touchable. Et si on est touchable, ça ne fait pas bien d'être en Afrique et de promouvoir les droits des femmes. Et ce qu'elle remettait en question, c'est la vision universaliste de la question féminine, des revendications et des stratégies de lutte, sans se référer à la situation des femmes d'autres continents. Et cette révolte, au fond, on l'a eue, enfin, cette révolte, cette négation d'une identité féministe, on l'a eue aussi bien dans d'autres parties du monde, en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Asie, et bien sûr en Afrique, et en Moyen-Orient. En Amérique, d'ailleurs, en Amérique du Nord, les militants de la cause des femmes, qui appartenaient à d'autres races et d'autres classes, se sont érigés contre ces prétentions universalistes. C'est tout le sens d'attaques d'Américaines telles que Bell Hooks, telles que Patricia Hill Collins, telles que Ethel Carby, telles que Kimberly Crenshaw, pour qui l'appartenance de race, de nation et de classe était bien plus significative des discriminations à l'égard des femmes de couleur, women of color, en Amérique. C'est vrai que la question de la caste a été et reste au cœur des problématiques de divers mouvements, women of color, black feminism, womanism, combat behavioral collective, et toutes les tenantes de l'intersectionnalité qui ont été, au fond, une dimension essentielle de la lutte des femmes. Et pour des raisons connues, de l'esclavage, de la colonisation, des politiques raciales ségrégationnistes, tout autant en Afrique du Sud et en Afrique australe. Mais on aurait bien pu le faire dans d'autres régions où, malgré le métissage, il existe des tensions raciales. Et ça, c'était un point important que les femmes avaient mis en classe. Mais ce qui arrive surtout, c'est qu'en Afrique, au fond, aucune association de femmes, ni des femmes dans la recherche académique, se sont revendiquées féministes noires. Féministe noire, c'est être minorité noire dans un monde de blancs. C'est une question difficile à affronter. Et je ne nie pas, et je pense que nous avons un combat commun entre minorité noire ailleurs et majorité noire dans un continent majoritairement noir au sud du Sahara. Nous avons à faire ce travail commun pour faire que la race noire soit respectée. Mais ceci dit, les angoisses, les mépris venant d'ailleurs, je n'ai plus le temps de m'en occuper. J'ai tellement de besoin de résoudre mes problèmes locaux en Afrique, où je suis une majorité africaine. Dans les rues de Dakar, je ne suis pas une femme noire. Dans les rues de Dakar, je suis une Sénégalaise, je suis une Peul, ne parlant pas le Peul, parce que née dans un milieu Wolof. J'ai toutes ces dimensions. Je suis une musulmane, je suis un ensemble de choses qui font que la question de la race est juste une dimension. Je voudrais bien sûr, même si j'ai le temps, de ne pas prendre quand même toute cette heure, c'est au fond, que signifierait un féminisme noir face à un féminisme africain? C'est une des dimensions, mais ce n'en est qu'une dimension. Bien sûr, nous avons l'articulation du sexisme et du racisme dans le monde hors du continent africain. et d'une grande partie du continent africain. On peut dire que, au fond, la race est un élément de discussion, parce que c'est un élément identitaire, mais il est au fond, mis dans un ensemble de problèmes qui sont les problèmes qui sont ceux des sociétés africaines et ceux à la base des oppressions des femmes. Alors, bien sûr, on peut dire qu'il n'y a pas assez d'études, qu'il y a plus d'études écrites en anglais. C'est la faute à la France. Hein. La France, dans son université, a mis beaucoup de temps à mettre les questions féministes dans son programme, alors que pour les universités anglophones, Nigeria, Ghana, Ouganda, les études féministes font partie du curriculum depuis beaucoup plus longtemps. Mais ce que les Africaines ont surtout cherché à faire, c'est comment, un, décoloniser la recherche, et comment, alors à l'époque, le mot à la mode, c'était engendering. Nous l'avons traduit par engendrer, ça n'existait rien du tout, sauf si nous expliquons le sens que nous lui donnons. Et j'avoue que le terme engendrer, dans l'ouvrage collectif que nous avons publié, deux Nigérianes et moi, elles avaient mis en français Engendering African Social Sciences. Moi, j'ai dit, bon, si on veut la version française, donc nous allons engendrer. Le milieu francophone académique dans lequel j'évoluais a été choqué en disant, mais c'est pas du français, ça fait rien, on va inventer. Mais ça nous permettait de rompre avec cette vision eurocentrique de l'Afrique, ses théories sociales et les études des femmes. Ce sont en fait toutes les études africaines, sciences politiques, histoire, philosophie, dominées par la pensée occidentale, que nous voulions remettre en question. Mais nous voulions également le faire, c'est en même temps, et c'était le même travail, mais avec une double dimension, c'est non seulement d'économiser cette recherche, mais surtout mettre des perspectives de genre dans les sciences sociales en Afrique, qui étaient des sciences sociales contrôlées, comme le reste des disciplines d'ailleurs, par les hommes. Donc décoloniser a été la première, le premier travail littéralement politique fait par l'Association des femmes africaines pour la recherche et le développement, AFARD, qu'on appelait AEWOL en anglais, et qui a au fond travaillé d'une part sur comment se déconnecter du mainstreaming gender, mais à l'occidental, et mainstreaming gender dans un contexte africain. On a également d'autres institutions qui ont été créées, alors qui ne sont pas toutes francophones, mais qui existent alors depuis bientôt maintenant une trentaine d'années. Hein. C'est par exemple Women in Nigeria, qui est un mouvement féministe créé en 1982 à l'université Ahmadou Bello. On a le Tanzanian Gender Networking Program, TGNP. On a SAPES. On a SAFERE. On a. Disons, il y a plusieurs autres. C'est-à-dire, au moment où Elsa Doran demandait mais où est le féminisme noir, il y a une foule d'institutions qui existaient, qui travaillaient en français, en anglais. Bon, moi, en français d'ailleurs, hein, parce que, comme je vous ai dit, vous êtes un peu en retard sur l'institutionnalisation académique d'une réflexion féministe. Mais c'est vrai que les Africaines avaient émis les mêmes critiques sur les théories et les études féministes que celles des Women of Color. Alors, de la Marocaine Fatima Mernissi, qui en 1975, qualifiée d'arrogante l'attitude des Américaines blanches, à la Nigériane Oyerunke Oyewumi, qui est interrogée sur la pertinence du féminisme pour les Africaines, les critiques ont été extrêmement importantes et vives. Robin Morgan, en 1984, prônait un féminisme planétaire pour le 21e siècle. Les Africaines, elles, à ce moment-là, convoquer leurs propres problèmes dans leur propre contexte, comme elles le firent durant les conférences ADC mondiales des femmes. Je pense à la Ghanéenne, à Abena Bouzia, qui crée à Rutgers University, un Women and Gender Studies en anglais, studies à Rutgers University, où elle disait « L'un des aspects les plus torturés des praxis féministes en Occident, c'est la difficulté qu'éprouvent les femmes européennes, européennes et euro-américaines avec l'autorité supposée de leur paradigme théorique à confronter d'autres systèmes de pensée, d'autres modes de pratique et de négociation tels que présentés par les femmes de la couleur sur notre expérience propre, des femmes de couleur, pardon, sur notre expérience vécue. » Bon, c'est ma traduction, c'est pour ça que c'est pas si bien. Mais ce qui est important, c'est la tentative pour les femmes de prendre l'Afrique et les problèmes d'Africains au cœur de son contexte. Et je renvoie, bien sûr, aux synthèses faites par Amina Mama en 1996 et par Desiree Lewis en 2002 sur les études des femmes en Afrique. Il y a un large champ de travaux qui ont été faits. Alors, je donne juste quelques exemples de la manière d'appréhender, enfin, la manière, des questions que se sont posées les femmes et qui, sur lesquelles on pourrait se retrouver, mais on a eu des difficultés à ancrer ces questions sur le terrain, sans être occidentale, en montrant qu'au fond, les Africaines ont un corps, que le corps doit leur appartenir, et le corps va du corps comme corps politique au corps comme objet culturel et religieux. Le premier, c'est le corps pris comme le corps culturel. Et là, on a tout un débat. Et ça, c'est les débats africains. Les débats africains, c'est à partir de quel moment est-ce que notre histoire entre dans la manière de comprendre qui nous sommes et qui nous voulons devenir. On a eu tout un débat. Vous savez que le patriarcat est un patriarcat dit universel. Et je pense qu'il est universel avec des formes différentes selon les contextes. Mais il y a toute une grande théorie que l'on comprend du substrat matriarcal en Afrique. Et ça, c'est les thèses de Charanta Diop, qui sont des thèses qui sont extrêmement importantes parce qu'il les a tenues en essayant d'expliquer quel était le soubassement culturel de l'Afrique et les soubassements de cette unité de matriarcat en est. Or, le matriarcat comme le patriarcat sont des idéologies qui traversent nos structures sociales. Cela veut dire que lorsque j'accuse le patriarcat africain, quand j'accuse le patriarcat chrétien, quand j'accuse le patriarcat islamique, au fond, je me déporte vers d'autres cultures qui ne sont pas les miennes, alors qu'il me faut revenir. Et pourtant, il y a bien sûr ce soubassement matriarcal, mais il y a un soubassement patriarcal africain que l'on retrouve dans les maillages de ce continent, de cette Afrique qui est un continent. Alors, bien sûr, les Africaines, vous savez, aujourd'hui, quand je me promène dans les rues de Dakar, quand je veux acheter un timbre, quand je veux acheter un kilo de banane, ou quand je veux simplement passer devant plein de gens parce qu'il y a une queue trop longue, si j'arrive avec mes cheveux blancs, tout le monde m'appelle maman. Et je reçois des privilèges. J'ai des privilèges parce qu'on me fait... je préfère qu'on m'appelle maman plus qu'on me dise troisième âge. Vous savez, au Sénégal, on a le troisième âge pour voter. Donc, je préfère cela. Mais qu'est-ce que ça signifie? T'as eu ce respect dû à la mère. Mais moi, ma question, c'est est-ce que ce respect dû à la mère est le même respect dû à la mère des enfants, des hommes qui m'appellent maman? Le matriarcat est-il un système? Utile à soubassement idéologique, le matriarcat a-t-il signifié le pouvoir des femmes? Je sais que le matrilignage Je pourrais reprendre les termes de l'ethno-anthropologie. Le matrilignage permet, dans plusieurs régions d'Afrique, de transmettre des choses. Transmettre ces choses, c'est transmettre les biens et c'est surtout transmettre le pouvoir politique. Mais à qui transmettons le pouvoir politique? Aux hommes. Alors, si j'ai du pouvoir, c'est vraiment un pouvoir tronqué. Et faire comprendre ces décisions est quelque chose d'extrêmement difficile. Donc, mais on a tout un courant de pensée, et c'est le débat entre les féministes africaines, qu'est-ce que le matriarcat? Et on a donc tous ces débats autour du matriarcat, autour de la matriarchie, avec des noms phares de la recherche en sciences sociales et de la recherche féministe africaine, avec notamment Ifi Amadioumé, qui a matriarchy, regional matriarchy, qui à partir de la société Igbo montre l'importance. Mais cela, est-ce que, malgré l'influence occidentale, malgré l'influence de l'Église, malgré l'influence de l'Islam, quelle est ma position en termes de maternité? Je sais que tout le monde a été très, très énervé d'entendre Macron dire « Ah, ces Africains, ils font trop d'enfants. Les femmes africaines font trop d'enfants, il faut les mettre à l'école. Mais quand elles cesseront de faire des enfants, on pourra développer l'Afrique. » Ça a agacé tout le monde, ici, parce que j'ai eu des retours d'ici. Mais ça a agacé plein de gens sur le continent africain. Ça a agacé tous mes collègues. Moi, ce qui m'a agacé, c'est le contexte dans lequel ils le disaient, en disant, c'est pas la peine qu'on donne de l'argent parce que passez votre temps à faire des enfants. Mais, à mon avis, personne ne s'était inquiet de savoir pourquoi les Africaines font tant d'enfants et pourquoi le taux de mortalité maternelle en Afrique est l'un des plus élevés au monde. À propos de la maternité, toutes les fois que je reprends quand même, vous avez des slogans et on les utilise. Ces slogans, comment ils utilisaient un enfant quand je veux, si je veux, avec qui je veux. Je scandalise tous les Africains assis dans mes amphis à l'Université de Dakar ou ailleurs en Afrique. Et oui, mais c'est un slogan féministe, mais qu'est-ce que vous voulez? Alors, ma question c'est, est-ce qu'une Africaine a le droit de dire je veux faire un enfant ou je ne veux pas? Est-ce qu'une Africaine a le droit de limiter ses nombres d'enfants? Est-ce qu'une Africaine a le droit d'avorter librement parce que ça ne lui convient pas? Pour le moment, elle ne peut le faire que si son santé est en danger et si le médecin qui peut lui faire l'avortement fait fi de ses convictions pour ou contre et décide de faire une intervention parce que la vie de cette femme est en danger. Donc, ces questions sont extrêmement pointues et sont des questions qui partent à partir d'un point de vue théorique, c'est quelle est l'importance du matriarcat. C'est de ça que les Africains discutent. Une autre question dont nous discutons, c'est l'accès des femmes aux politiques. Je sors un peu de mon texte, hein, mais je pense que j'ai besoin d'expliquer. L'accès des femmes aux politiques. La participation des femmes aux politiques, au fond, à partir du matriarcat, nous donnons le pouvoir. Et il est évident que si, et il y a plusieurs livres qui sont parus sur les places des femmes dans le monde politique, dans l'Antiquité, au fond, elles font l'ouvrage d'un volume. Bon, les autres femmes dans le monde ne font pas plus d'ouvrages, ne font pas plus de place. Hein. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer que la place des femmes comme leader du monde politique fasse juste l'objet d'un volume. Si le matriarcat est celui et le soubassement de la majorité de nos sociétés africaines, et si le matriarcat est celui qui permet aux femmes politiques d'avoir ce pouvoir. Ce sont des questions qui sont posées, ce sont les questions dont nous débattons. Une autre question, c'est, au fond, aujourd'hui, nous sommes sur le continent confrontés à plusieurs crises politiques, parmi lesquelles on a la collusion, je ne peux pas appeler ça autrement, entre la culture, la religion et le politique. Au nom de la culture africaine, au fond, il est extrêmement difficile pour les Africaines de revendiquer un statut, parce que ce statut, s'il n'est pas lié aux racines de la culture africaine dans laquelle elles vivent, ces revendications paraissent étrangères, bourgeoises, occidentalisées, paraissent vraiment rompre, faire que les femmes africaines quittent le bassin culturel dans lequel nous sommes. Or, aujourd'hui, après un passé impérial, français, anglais, portugais, etc., il est extrêmement difficile d'être accusé de non-africanité parce qu'on essaie de remettre en valeur, de remettre en question ces valeurs culturelles. Les religions, au fond, ne gardent le terme de religion qu'au fond des religions importées. Mais les religions, la tradition, Bambara, Yoruba, Wolof, etc., sont appelées croyances, alors que ce sont des systèmes religieux, et au fond, elles sont dominées par des religions, la religion chrétienne, la religion musulmane, qui au fond ont essaimé en mouvement, en courant, en confrérie, en église, en mosquée, qui dominent le continent. Or, aujourd'hui, on a, en dehors de l'islam politique, et en Afrique, on sait ce qu'est l'islam politique. L'islam politique peut prêter à confusion en Occident, peut prêter à confusion en France, mais au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, en Algérie, en Tunisie, en Égypte, l'islam politique ne prête pas à confusion. Or, ce que nous avons, c'est que nous avons dans nos pays le fait que les dispositions que prennent ces religions sont au fond des dispositions qui sont enculturalisées avec le temps, qu'il est difficile de mettre en question parce qu'elles font partie de la culture, et les États, au fond, entérinent toutes ces dispositions. Or, nos États, mais l'Afrique n'est pas exceptionnelle, sont de plus en plus conservateurs, sont, disons-le, de plus en plus fondamentalistes. Et je me suis rendu compte, dans l'étude que nous avons menée avec un groupe de chercheurs au Colestria sur genre et conservatisme et fondamentalisme, je pensais que seulement l'islam aurait de la place, mais tous mes autres collègues ont travaillé sur les églises évangéliques, sur l'église catholique, sur sa perte de vitesse et sa manière de réagir de manière tout à fait conservative pour garder ses groupes, ses troupes. Ces troubles, disons-le, il y a beaucoup de problèmes qui sont posés. Et ces problèmes soulèvent non seulement des questions religieuses, mais soulèvent des questions qui sont liées à la politique. La laïcité, alors pour énerver les gens, je dis, oh, la laïcité à la française. Ça énerve énormément de monde. Or, la laïcité, pour nous simplement, c'est la séparation entre l'Église, entre la religion et le politique. Pas la politique, mais le politique. Entre là, les systèmes religieux et les systèmes politiques. Faire qu'à l'Assemblée nationale, quand on veut faire un code de la famille, on est déjà obligé de prendre des dispositions de la charia, parce que nous sommes un pays majoritairement composé de musulmans, mais il est important qu'on puisse ne pas avoir à se référer à des sourates de la charia ou à des dispositions de la Bible pour décider de ce qui va advenir entre les rapports hommes-femmes dans la famille et dans la société. Donc voilà ces questions pour lesquelles les réponses et les analyses sont des analyses différentes certainement, mais où l'outil féministe nous sert. Parce que l'outil féministe, vous savez, si je pouvais dire, le jour où je ferai les formes, mais je crois que je ne pourrais plus le faire maintenant, mais le jour où, en Yoruba, en Hausa, en Peul, En Lingala. Donnez-moi une autre langue africaine. Ewondo. Douala. On pourra dire féminisme, marginalisation, exclusion, ou on pourra dire. On peut les dire, hein, mais il faut les construire. Parce que ces termes-là, ils ont été construits. Rapports sociaux de sexe, ça a vraiment été traduit. Gender, ça a été vraiment traduit. Empowerment, ça a été fabriqué à partir de la langue anglaise. Et sa mauvaise traduction en français, autonomisation, capacitation, sont également une traduction. Je pense que le jour où nous aurons recréé nos propres concepts, à ce moment-là, nous pourrons utiliser et arrêter de dire que nous nous sommes réappropriés du féminisme, mais nous pouvons dire que nous avons contribué. Parce que je pense, petitement là au-dessus de vous, avoir contribué à ma manière à non seulement enculturer le féminisme dans mon monde africain francophone, mais lui avoir donné de la substance, lui avoir donné des formes qu'elle n'avait pas, que le féminisme n'avait pas prévu d'avoir. Donc c'est ça qui est important. Alors, alors ma conclusion, c'est au fond, alors je ne vais pas dire oser le féminisme, hein, parce que ce n'est pas bien de le dire, c'est pas bien de dire en France oser le féminisme, ce n'est pas bien du tout. Mais honnêtement, Niemelen féminisme. N'ayez pas peur, est-ce qu'on peut dire n'ayez pas peur d'être féministe, n'ayez pas peur de revendiquer vos idées féministes, n'ayez pas peur d'être noir en France, n'ayez pas peur. Alors en Afrique, on n'a pas peur d'être noir, alors ce que je vais dire biologiquement, c'est construit, la race est construite, mais très très honnêtement, je pense qu'il y a ce qui est important du féminisme, c'est pas qu'il soit noir. C'est pas qu'il soit noir, c'est pas qu'il soit africain. Alors, voilà le terme. On a féminisme noir, féminisme africain. Parce que les féministes en Afrique, comme et c'est ma conclusion, ne sont jamais revendiqué un féminisme noir. Elles ont revendiqué un féminisme africain qui répond aux préoccupations de leur contexte et qui peuvent surtout aider à transformer. Parce qu'il faut qu'on cesse de décrire, il faut qu'on en réussisse à transformer. Et pour cela, si les outils féministes nous aident, alors, il faut nous en saisir. Je vous remercie.
Ça marche? Merci beaucoup. On a peu de temps, donc je suis désolée, je vais vous demander de vous limiter à deux questions. Je sais que c'est une présentation très dense et on s'en excuse de ne pas pouvoir pour l'instant avoir plus de débats. Ça va continuer dans les ateliers. Voilà.
Merci. Je suis Yvette Oni-Bondoubogan, enseignante à l'Université de Parakou au Bénin. Et j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt votre communication. Et au moment où vous parliez du matriarcat, je me suis demandé est-ce qu'il ne faut pas aller jusqu'au bout pour savoir si, en comparant le système patriarcal tel qu'il fonctionne, surtout en Afrique, qui est un système qui finit par donner le pouvoir, qui donne le pouvoir en priorité aux hommes, et la matrilinéarité, comme vous l'avez expliqué, qui donne le pouvoir finalement aux hommes, peut-on parler de matriarcat finalement? Parce que si on veut comparer ces deux systèmes autour de la notion du pouvoir, dans le matriarcat, il me semble qu'il manque la notion du pouvoir. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est est-il nécessaire de traduire féminisme dans nos langues? Je pense que avant même que nous ne connaissions le mot féminisme, dans nos communautés, il y avait déjà des femmes qui s'organisaient dans de petits groupes, parfois dans de grands groupes, pour revendiquer leurs intérêts, mais surtout pour travailler sur ce qu'on appelle aujourd'hui autonomisation économique, mais ce n'était pas vraiment autour de ça. Ma grand-mère, il y a 30 ans qu'elle est décédée, elle était présidente d'une association de femmes qu'elle appelait Obirin Chomon en Yoruba. Et en français, ça veut dire la femme est très chère. Et autour de cette notion, il y avait tout un travail qu'elle faisait avec les femmes sur la confiance en soi, mais surtout sur le développement des activités économiques. Vous savez que les femmes Yoruba sont toujours dans le commerce et la transformation agroalimentaire. Elle était présente de cette association. Et aujourd'hui, cette association, quand bien même elle n'existe plus, les gens la connaissent. Moi, je suis sa petite fille et j'ai su plus tard, en travaillant sur le féminisme, sur l'approche genre dans ma localité, que ma grand-mère avait créé une association comme ça. Alors finalement, oui, merci. Finalement, je me dis que même si ça ne s'appelait pas du féminisme, il y avait déjà, depuis bien longtemps, des mouvements dans nos communautés qui travaillaient sur ces questions-là, et ne devons-nous pas retourner à la source? Merci.
Je suis Martin Ibok, je viens de l'université de Douala au Cameroun. Donc, j'ai suivi avec attention l'exposé de Madame Fatousso, qui m'a d'ailleurs enrichi. Sauf qu'il y a une question qui me taraude de l'esprit, elle est la suivante. Comment les Afriques féministes s'approprient et se réapproprient les outils de la féminité dans un contexte actuel? Merci.
Bien, je voudrais, en attendant d'autres questions, répondre à la première sur matriarcat ou matrilignage. Alors, si je me réfère à ma langue, il n'y a pas de mot en Wolof pour dire matriarcat. Par contre, matrilignage, il y a un mot, négouney. C'est la chambre, littéralement la couche de la mère, négoubaï, la couche du père. Ces deux mots permettent de voir qu'il y a effectivement la lignée maternelle et la lignée paternelle. Et selon les contextes, soit de patriarcat, soit de matriarcat, l'une prédomine l'autre, mais tous les deux étant importantes. Mais dans le cas du matrilignage, qui fait que je ne parle pas de matriarcat, dans le cas du matrilignage, c'est au fond, la place des femmes est importante si on est la mère du roi. C'est-à-dire un roi, un damel du cœur, par exemple, il est élu parce qu'il appartient à une branche maternelle, à une lignée. Et cette lignée, elle n'est importante que par la mère. Alors, bien sûr, c'est par les mères qu'on sait. Si vous avez le même sang que quelqu'un d'autre, c'est par la mère qu'on le sait, pas par le père. Et dans nos familles qui étaient des familles polygames, l'appartenance à un système ou à une lignée par sa mère est une appartenance d'importance. Mais ce que les femmes transmettaient, c'est aux hommes qu'elles transmettaient. Elles transmettaient le pouvoir politique aux hommes. Or, bien sûr, si on était la mère qui a transmis son pouvoir à un fils, on avait de la place, de l'importance, disons. Si on était sa sœur, on avait de l'importance. Si on était sa cousine maternelle, sa cousine, en usant des termes français tout à fait inadéquats pour expliquer cette structure de parenté, la lignée maternelle est une lignée très importante parce que c'est elle qui est authentifiée la source et l'origine. Donc c'est ça qui fait la distinction. Cette distinction qui a été décrite par l'ethnologie sur des volumes et des volumes. Ah, une autre question, c'est pourquoi le féminisme? Écoutez, il y a une bibliothèque qu'on a appelée coloniale. Il y a une bibliothèque qu'on a appelée occidentale. Mais cette bibliothèque, elle est je la veux universelle. Parce que chacun d'entre nous ici, venant d'Afrique, d'Asie, d'un monde différent de ce monde occidental, a contribué à cette bibliothèque. Donc je veux pouvoir pas détruire. Je veux bien détruire la bibliothèque coloniale parce qu'elle est, elle exclut, elle est raciste, elle est tout ce que vous voulez. Mais je veux bien qu'elle ait sa part dans cette bibliothèque universelle dans laquelle je prends mes mots, mes concepts. Quand le vaccin, si un jour on trouve le vaccin contre le virus corona, bon, ben je prendrai. Je prendrai très volontiers. Donc c'est ça. Donc utiliser le féminisme est un terme que je peux utiliser et que je peux revendiquer. de la même manière que les hommes ont revendiqué tous les concepts inventés. Alors, de Marx à Althusser, il y a un choix. Hein. Ils n'en ont refusé aucun. Ils ont contribué à en créer d'autres. Donc, je dois pouvoir utiliser ce terme. Tant que je parle en français, je dois pouvoir utiliser ce terme. Et je dirais féminisme en anglais et puis en espagnol, en russe. Je ne sais pas comment on le dit, mais il y a un concept là. Mais le féminisme, c'est une idéologie. C'est une idéologie qui sert de soubassement à comprendre des situations, des faits sociaux. C'est ça que ça sert. Mais c'est vrai que nos mères, notamment les alors je ne vais pas dire market women, hein, pas ça, c'est dévalorisé, mais la place des femmes dans le commerce, dans le monde Yoruba, tout le long du golfe du Bénin, jusqu'au Cameroun, la place des femmes dans le commerce était extrêmement importante. Et ces femmes étaient riches. Bon, mais être riche, c'est une chose. Est-ce que ça a donné un pouvoir sur sa famille, mais est-ce que ça a donné le pouvoir ultime? Et à ce pouvoir ultime, honnêtement, très souvent, on n'a eu que des hommes. Mais bien sûr, il y a eu des revendications. Les femmes n'ont pas arrêté de revendiquer. Elles ont revendiqué à l'époque précoloniale, elles ont revendiqué à l'époque coloniale. Je pense à toute la place des femmes dans les luttes coloniales sur le continent africain. Il y a un très beau film que je recommande de voir si vous avez le temps. C'est un documentaire sur les moments de l'indépendance. C'est un film, un documentaire tourné par une jeune cinéaste sénégalaise qui, au fond, exhume toutes les femmes qui ont participé à la décolonisation du Sénégal, arrivée à l'indépendance et à la décolonisation du Sénégal, qui étaient des femmes, certaines se les connaissaient de nom, sans savoir ce qu'elles faisaient vraiment, pour montrer le rôle et la place qu'elles avaient et le rôle qu'elles ont joué. Alors, les Africains peuvent être féministes dans les contextes actuels. Les contextes actuels ne sont jamais autant prêtés à des revendications féministes. Nous entrons quand même dans des ères, E-R-E-S, où, non seulement la liberté est une règle de base, mais la parité est une règle de base. L'égalité entre les sexes. L'équité, moi je mets entre parenthèses, mais l'équité, c'est tellement marginalise tellement d'autres femmes que c'est problématique. Je crois que les Africains n'ont jamais autant de raisons d'avoir un argumentaire féministe, qu'elle le soit ou qu'elle ne le soit pas. Parce que ce sont des rapports de force à déconstruire sur la base de données qui sont construites socialement.